Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 janvier 2022. On est en train de boucler le pire mois de janvier depuis 2008, je crois, en tous les cas. Donc c'est pas terrible. Il y a quand même 2-3 bonnes nouvelles l'un dans l'autre. On va faire un petit point sur ce qu'on vient de vivre la semaine dernière et puis ce qu'on veut éventuellement vivre cette semaine. On s'est pris une claque, il y a pas à mentir. Par contre, on s'en est bien sorti quand même. Il y a des points d'inflexion qui sont assez intéressants, qui nous permettent d'espérer encore un peu de positivisme pour la semaine à venir. Moi, je suis plutôt positif parce que franchement, je préfère être positif qu'en train d'essayer de m'ouvrir les veines avec un couteau à beurre. Donc de toute façon, je suis plutôt content en ce lundi matin et je suis surtout très content de vous retrouver. Mais d'abord, avant d'entamer quoi que ce soit, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce que les Américains nous ont fait vivre la semaine passée, ce qu'on a envie de dire. Bon, on s'est fait balader pendant toute la semaine dernière puisque systématiquement, on nous a fait l'inverse de ce qu'on avait l'air de vouloir nous faire à 17h30 quand nous, les Européens, on est rentré à la maison. On va en parler un tout petit peu tout de suite. Alors vous l'avez vu, hein, la semaine dernière, si on prend un point de tous les jours de la semaine où on a fini la journée en Europe vers 17h30, 18h, quand tout le monde se casse depuis les bureaux à Paris, à Francfort et à Londres, eh bien à ce moment-là, on était toujours dans la position inverse de ce que allait être la clôture aux États-Unis. Et ça, c'est assez phénoménal. Parce que c'est pas nouveau. Moi, il y a des années en arrière, quand je travaillais dans un fonds d'investissement il y a une vingtaine d'années, eh bien, je traitais les actions européennes et j'avais l'impression que du moment où j'éteignais mes écrans et je quittais la salle de trading, eh bien, c'est ce moment-là que les Américains décidaient pour changer de direction. Et pendant toute la soirée, j'étais devant ma télé en me disant « Mais qu'est-ce que je vais faire demain matin? Je vais encore me faire démonter la tête parce qu'ils ont pas fait ce qu'ils avaient l'air de vouloir faire, ce qu'ils allaient faire. » Donc du coup, on était perdu. Mais c'est un truc qui existe depuis toujours, parce que finalement, de toute manière, on est complètement collé sur ce que font les Américains. Si vous, demain, vous avez une société en Suisse et que vous faites des résultats phénoménaux, que tout va bien, vous avez des résultats fantastiques dans toutes les divisions, que vous avez l'impression que l'avenir est rose dans tous les coins, et bien si les Américains se pètent la figure pendant la nuit suivante, et bien votre société va quand même se faire démonter comme le reste du monde, parce que c'est les États-Unis qui dirigent. Oui, ça fait mal de le dire, mais c'est la réalité. Et c'est vrai que c'est pas une surprise fondamentale, parce que si on regarde tout simplement, en 1929, c'est la récession américaine qui a tout foutu par terre pour le crash de 29. Dans les années 70, le crash pétrolier, eh ben, il est venu de là-bas. En 1987, c'est les ordinateurs de Wall Street qui ont commencé à tout foutre par terre en balançant des ordres dans tous les sens. En 1995, quand le fonds LTCM s'est pété la figure, eh bien, c'était dirigé depuis où ? Depuis New York. En 97 et en 98, on a eu les crises asiatiques, on connaît ça, mais les crises asiatiques, c'est New York qui a tout mis par terre dès que ça a commencé à se tendre là-bas, et c'est New York qui a précipité l'accélération des baisses très rapide soit, mais qui a précipité la baisse rapidement dans les marchés. On a eu des flash crash, ça venait d'où ? Ça venait de New York. Et puis alors, pendant la bulle internet de l'an 2000, eh bien, qui c'est qui nous a mis tout ça par terre ? Eh bien, les gens couraient après quoi comme boîte ? Des Yahoo, des Google, des Amazon, enfin toutes des boîtes qui étaient basées aux États-Unis, et c'est eux qui se sont envolés, et c'est nous qui avons suivi comme des bêtes, et c'est eux qui se sont pété la figure en premier, et c'est nous qui avons suivi de nouveau. Et puis alors, je vous parle même pas de la crise des subprimes, parce que la crise des subprimes, eh ben, ça venait d'où ? La subprime, c'est un truc qui a été inventé, qui a été créé par et pour les Américains. Résultat, c'est toujours dans leur direction qu'on regarde, et c'est dans leur direction que les choses se passent. Si on a un bull market qui redémarre, ça vient de chez eux. En 2020, quand on a la crise du Covid, d'ailleurs on n'en parle plus, mais bon, peu importe, la crise du Covid en 2020, quand on s'est retrouvé au fond du trou, ça a remonté quand ils ont décidé aux États-Unis d'injecter des soutiens monétaires aux États-Unis, et c'est à ce moment-là qu'on est reparti à la hausse, donc c'est eux qui dirigent. Donc on peut faire ce qu'on veut. On a un gros problème, et notre gros problème, c'est qu'on n'est pas dans le même fuseau horaire, donc on doit faire avec. Mais il faut aussi comprendre que quoi qu'on fasse en Europe, peu importe la qualité de notre économie ou de nos entreprises, on sera toujours linké aux États-Unis. Et la semaine dernière, je soupçonne les Américains d'avoir des caméras dans les salles de trading un peu partout en Europe pour regarder quand c'est qu'on est parti du bureau, puis dès qu'on est parti du bureau, les mecs, les Européens sont partis, on peut y aller et on change de direction. D'ailleurs, sur Internet, c'est la première fois qu'on en parle autant et c'est la première fois sur les réseaux sociaux où on voit toujours qu'on aborde ce sujet du fait que les Européens se sont fait balader par les Américains toute la semaine. Mais en fait, je peux vous dire, moi, ça fait quand même un paquet d'années que je suis là et en fait, c'est pas depuis une semaine, c'est depuis bien plus longtemps, sauf qu'ils le font plus discrètement. Et puis alors, il y a un truc qu'on va devoir gérer la semaine à venir et qu'on a géré la semaine dernière, c'est la Fed. Alors la Fed, on va pas revenir dessus, on a déjà discuté de ce qu'ils ont décidé de faire, ils vont monter les taux, ils vont réduire le bilan de la Fed, blablabla, on connaît l'histoire. Fin du tapering, oui, monsieur Powell a dit que de toute façon, lui, son job n'était pas de mettre un put sur les marchés, donc il a aussi montré son demi-soutien, donc il y a eu des doutes et le marché a quand même l'impression qu'il va devoir se démerder tout seul ces prochains temps, et ça, on n'a pas vraiment l'habitude. Néanmoins, on a l'air de commencer à trouver un fond et c'est surtout important de regarder aujourd'hui ces deux points que j'ai déjà cités la semaine dernière. Sur le S&P 500, on a 4219 et sur le Nasdaq, on a 13725. Ces deux niveaux, il faut vraiment se les mettre dans la tête parce que tant qu'on ne revient pas en dessous en clôture, ça voudrait dire qu'on est peut-être en train de construire une base et qu'il y a un tout petit peu d'espoir dans le futur. C'est comme je vous l'ai dit, je veux rester optimiste pour l'instant. Alors je sais qu'il y en a qui vont me reprocher parce que oui, ça fait des années qu'on soutient les économies par les banques centrales et un jour ça va nous péter la figure, soit. Enfin pour l'instant, les marchés ont l'air d'avoir trouvé un fond dans cette zone-là et quand on voit la clôture de vendredi, c'est plutôt positif. Alors essayons de voir le verre à moitié plein pendant quelques jours, on sait jamais, ça peut faire du bien. Le côté de la Fed, on sait aujourd'hui qu'ils vont nous monter grosso modo les taux de 1,25 d'ici aller à la fin de l'année. Ça c'est plutôt une certitude. Il y a même un mec de la Fed de Boston, d'Atlanta, monsieur Bostich, qui a dit que selon lui, si vraiment l'inflation partait en sucette, eh bien, ils s'autorisaient à même potentiellement monter les taux d'un coup, d'un demi-point. Donc ça, ce sera peut-être pour mars, qui sait. Mais tout ça, on a l'air de l'avoir digéré, puis finalement de l'accepter gentiment. Et c'est vrai qu'encore une fois, si l'inflation est là, si on essaye de la freiner et qu'on le fait intelligemment, c'est normal dans une économie qui cartonne d'avoir une inflation qui monte. Il faut juste réussir à la maîtriser et ce sera le boulot de la Fed. La grande crainte, c'est que la Fed se plante. Et pour l'instant, mis à part le fait qu'ils ont complètement raté l'histoire de l'inflation transitoire et puis du fait qu'elle était sous contrôle, on peut espérer que cette fois, ils sont en train d'anticiper, ils ont bien compris le risque et qu'ils vont faire le nécessaire pour sauver le monde. On peut espérer. Il y a aussi une chose, c'est que quand on lit un petit peu la presse financière ces dernières heures, si vous avez passé un peu de votre week-end à lire des journaux comme le Barron's, le Wall Street ou Business Insider par exemple, vous avez quand même une perception qui est en train de changer. Alors, soit évidemment, le truc qui va nous tirer le marché ces prochaines années, ce sera toujours probablement la croissance. Mais c'est clair qu'avec cette phase de hausse des taux et d'inflation, eh bien, les gens sont en train de se dire peut-être que je vais devoir repondérer mon portefeuille. Alors, nous en Europe, on a plutôt des portefeuilles relativement défensifs puisqu'on a quand même pas mal de titres européens qui sont connus pour être un peu plus value que croissance, et donc du coup on est déjà un petit peu dans cette position. Mais là il y a un changement de mentalité qui est en train de se faire. Pour l'instant, les gens sont en train de se dire, ouais, alors peut-être que le portefeuille all-in crypto-tech, eh bien c'est peut-être pas forcément la solution, et on est en train de revenir sur des positions un peu plus logiques en se disant, oui, mais si j'achète une boîte qui paye du dividende et puis qui fait un boulot, un business que je comprends réellement et puis qu'elle a pour durer dans les années à venir avec une volatilité moindre, eh bien je dormirai peut-être un peu mieux. Alors on est en train un peu de changer ces pondérations et ça ne veut pas dire qu'en changeant l'exposition de nos portefeuilles, on est en train simplement de se dire j'arrête de faire du trading, j'arrête de faire de l'investissement. Non, si aujourd'hui vous achetez des boîtes qui payent des dividendes et qui sont là sur le long terme, moi j'adore Coca-Cola, vous le savez, mais si on prend un Coca-Cola et puis que vous dites bah j'achète régulièrement du Coca et je prends mes 3% de dividendes et puis j'attends un peu que les choses se calment. Franchement, il y a pire quand vous regardez la performance de Coca-Cola ces derniers temps, c'est quand même pas mal. Alors soit, c'est clair, c'est pas comme ça que vous arrêterez de travailler la semaine prochaine, mais en même temps, ça marche pas à tous les coups le fait de devenir riche en quelques heures. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé sur la crypto, ça a quand même calmé pas mal de monde, surtout ceux qui ont travaillé en leverage ces derniers temps. Donc voilà, pour la petite histoire, il y a aussi une boîte qui s'appelle Wonderland dans le DeFi, là qui s'est pris une claque récemment de pas loin de 95%, ça peut aussi remettre les choses un peu en parallèle. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce genre de phase de risque, je vais pas parler de bear market, de correction majeure et de fin du monde, parce que vous savez très bien que c'est pas mon style, et puis je le ferai jamais de toute manière. Je préférerais constater les choses que venir dire, ouais, cette fois faut tout vendre, on va tous mourir. Mais je crois simplement, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que dans ce genre de phase d'augmentation du risque, acheter au plus bas, on n'y arrivera jamais, vendre en plus haut non plus, simplement quand on est un petit peu crispé, et là on est un petit peu crispé, on voit que la vol est quand même beaucoup plus haute que d'habitude, que les tensions sont beaucoup plus hautes, que les marchés bougent de manière beaucoup plus irrationnelle, on a encore deux trois choses qui nous tendent, entre autres l'Ukraine, entre autres le fait qu'on ne sait pas si vraiment le Covid s'est terminé, donc il peut encore y avoir des risques, et pour réduire le risque, eh bien vous pouvez simplement, à la place de dire je vends tout, vous pouvez simplement vous repositionner sur des sociétés qui sont quand même plus défensives. On l'a vu récemment, quand vous voyez des boîtes qui sont des boîtes normales, Oui, les corrections, elles sont là, mais vous continuez à toucher un dividende et puis vous êtes beaucoup plus confortable. Et moi, je vous dis, le plus important dans ce métier et dans ce monde, c'est aussi de pouvoir dormir le week-end et de pouvoir vous éviter d'avoir trop de bruit autour de vous et trop d'environnement qui est toxique par rapport au monde de la finance. Et quand on ne parle que de tech et de haute volatilité, c'est clair qu'on a tous envie d'avoir des positions qui vont cartonner ces prochains temps. Mais on peut regarder aujourd'hui parce qu'il y a des boîtes qu'on voulait à tout prix avoir il y a encore 3 mois en arrière. Et puis là, aujourd'hui, plus personne n'en veut. Donc, il y a un risque, effectivement. Alors, les moins courageux, vous pouvez simplement repondérer vos portefeuilles. Et puis, à la place de faire du 80% tech, faites peut-être du 50-50. Il y a plein d'opportunités aujourd'hui dans la techno qu'on disait que c'était des boîtes géniales. Je prends l'exemple, de Salesforce, par exemple, qui n'a pas encore publié ses résultats. Salesforce est une boîte géniale dont on parle très peu et elle s'est fait démonter de plus de 30%. On peut regarder aussi de ce côté-là. Ça reste de la tech, mais ça reste de la tech raisonnable. Puis à côté, vous avez aussi toutes les boîtes défensives. Regardez les résultats du secteur pétrolier. Le seul truc qui n'arrête pas de monter, accessoirement, c'est le pétrole qui est à 87$ et des poussières. Et à côté de ça, eh bien, vous avez des performances sur les pétrolières qui sont absolument stratosphériques. Donc la repondération des portefeuilles dans ce genre de situation est plutôt une bonne chose à faire, une bonne chose à réfléchir, et pas se sentir non plus coupable de dire « Ok, je dégage et j'arrête tout ». C'est ce qu'on a tendance à faire dans ces périodes difficiles, c'est qu'on déballe tout, on coupe tout, et puis on dit « Non, moi je vais faire autre chose, et puis je vais cultiver des chèvres, un peu importe quoi. On veut se ressourcer, on veut acheter une maison d'autre, partir en Provence. » Non, il faut juste repondérer les portefeuilles, revenir un petit peu au calme, et voir que pour l'instant, on a l'impression, allez, je vais faire un pari, on a l'impression que le pire est passé. Je voudrais juste faire aussi un petit détour sur la thématique de l'an 2000, parce que j'entends beaucoup dire à droite, à gauche, oui, c'est comme en l'an 2000, on est en train de faire le dégonflement de la bulle Internet. C'est pas tout à fait pareil. La différence, c'est qu'à l'époque, les boîtes ne gagnaient pas d'argent, aujourd'hui, elles en gagnent beaucoup. Ça, c'est la première chose. Et puis, en fait, si vous regardez aujourd'hui, ceux qui attendent le crash final type bulle Internet, mais quand on voit les résultats d'Apple, quand on voit les résultats de Tesla, quand on voit les résultats de Microsoft, on n'est pas vraiment dans un mode bulle Internet, parce que les chiffres sont encore canonissimes de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, par contre, si vous regardez un petit peu plus loin, eh bien vous verrez effectivement qu'il y a 2-3 boîtes qui ont déjà fait leur crash. Vous regardez des Peloton, vous regardez des Rivian, vous regardez des Robinhood, vous regardez des Coinbase par exemple. Tout ça, ils ont déjà fait leur crash type bulle Internet. Donc si ça, c'est la croissance future, si ça, c'est l'avenir, peut-être que là, il y a aussi des opportunités à regarder parce qu'on est en train de repartir sur quelque chose de relativement intéressant. Il faut juste faire attention à une chose, ne pas croire que c'est systématiquement la même chose parce qu'il y a plein de différences et il y a plein de choses qui se sont déjà produites à l'intérieur même du tissu du marché qui pourraient peut-être nous dire qu'on a déjà fait une grosse partie du nettoyage et que maintenant, peut-être qu'on va pouvoir commencer à se reconstruire. Et puis souvenez-vous, hein, quand les phases de hausse des taux sont là, les marchés, ils ont quand même tendance à terme à suivre, en général. Je terminerai avec deux questions groupées en une qui me sont venues cette semaine. Il y a deux personnes qui m'ont demandé ce que je pensais d'Alibaba et ce que je pensais des voitures électriques en Chine. Alors, la problématique aujourd'hui qu'on a avec la Chine, c'est que, vous connaissez, c'est plus un problème politico-économique qui nous pèse sur la tête plutôt que des fondamentaux. Quand on regarde les fondamentaux des voitures NIO, par exemple, ou Xipeng, ou même alors Alibaba, puisque c'était une des questions, les fondamentaux sont OK. Tout a l'air d'aller plutôt pas mal. Ils vendent des voitures électriques. Alibaba cartonne de toute façon. Les fondamentaux sont OK. Toute la problématique qu'on a derrière, c'est que Monsieur Xi Jinping est en train de foutre un bordel monstre sur la Chine. On l'a vu déjà, il y a le côté où il veut empêcher les sociétés chinoises d'être cotées aux États-Unis. Donc la plupart des boîtes chinoises vont devoir sortir de l'indice des indices américains et aller se traiter à Hong Kong. Donc pour certains fonds, ça sera plus difficile d'aller acheter ce type de boîte, donc ils sont obligés de sortir. De l'autre côté, vous avez cette espèce d'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête, parce qu'il suffit que du jour au lendemain, l'autre là-bas, il prenne une décision communiste et complètement hors sujet par rapport au capitalisme qu'on essaie de développer avec ces sociétés là-bas. Et donc du coup, ça peut mettre un coup de foin. On a vu le cas avec Alibaba, et c'est toute l'histoire d'Alibaba. Alibaba allait très bien jusqu'à finalement que le gouvernement s'en mêle et veulent les garder sous contrôle. Ce que la Chine, le gouvernement chinois a peur, c'est de perdre le contrôle et d'avoir des méga sociétés comme on a aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces méga conglomérats américains, les Tesla, les Amazon, les Apple, les Microsoft, c'est eux qui tiennent le gouvernement par... C'est eux qui tiennent le gouvernement et c'est ce que veut pas la Chine. Donc la Chine est en train de lutter pour que ça ne se produise pas. Et donc à côté de ça, vous mettez quoi ? Des réglementations, vous mettez des lois soi-disant anti-corruption. Enfin bref, vous essayez de contrôler le net, vous empêchez, vous protégez la vie privée des Chinois. Ils veulent protéger la vie privée des Chinois. Le gouvernement chinois veut protéger la vie privée des Chinois. Laissez-moi rire, mais néanmoins, ça met la pression sur des boîtes comme Alibaba, sur des boîtes comme Tencent, et donc ça peut aussi poser des problèmes de croissance. Perso, quand je vois aujourd'hui ce que font les Chinois en termes de voitures, je pense que c'est un grand danger pour Tesla à terme. Je pense que c'est un avenir probablement de l'automobile. Ils vont arriver un jour ou l'autre, et c'est les choses qui font ont l'air plutôt pas mal. En termes de design, ça a bien progressé et ça a l'air de bien fonctionner. Mais le problème, c'est que si derrière, vous avez un gouvernement qui continue à vous mettre la tête sous l'eau, ça va être plus compliqué. Alors moi, j'aime bien Alibaba. Je pense qu'elle est en train d'essayer de faire un fond. J'aime bien NIO. Je pense aussi que c'est des opportunités d'achat. Mais le risque, on a cette espèce de discount que j'ai déjà abordé plusieurs fois dans ces émissions. On a ce discount de finalement d'avoir un risque politique derrière qui dégoûte les gens d'aller se positionner dedans. Et tant qu'on n'arrivera pas à lever un peu cet état de fait ou ce discount ou cette crainte sur les actions chinoises, on va avoir un problème pour en profiter naturellement. Donc c'est pas vraiment une réponse très claire, mais disons que moi j'aime bien ce que font les sociétés. Fondamentalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros risques, mais si derrière vous avez un risque politique permanent qui peut vous taper dessus, eh bien c'est toujours délicat à investir là-dedans. Donc prudence. Il faut utiliser des stop-loss quand on rentre là-dedans. Le seul problème, c'est qu'on l'a vu, hein, quand il y a une annonce qui se fait sur Alibaba, bah, ils font ça overnight et puis le lendemain matin, elle ouvre 20% plus bas et puis vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre. Donc, les fondamentaux sont OK, le risque politique ne l'est pas et c'est un problème, à mon sens, pour avoir un investissement serein, surtout dans ces périodes relativement stressées. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter en ce lundi matin. Je vous souhaite un très bon début de semaine. J'espère que ce sera un petit peu moins shaky-shaky que ce qu'on a vécu la semaine dernière. En tous les cas, moi, je vous retrouve demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On arrive tout près des 14 000. Merci à vous. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, bien sûr. Et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit. Bye bye.